Bonjour et bienvenue, le grand face-à-face de France Inter est donc en direct des rendez-vous de l'histoire de Blois en direct et en public. Et je salue chaleureusement tous ceux qui sont avec nous ici dans le grand auditorium près de la Halle au Grain. Bonjour et merci d'être aussi nombreux. Mes compagnons du samedi sont à mes côtés, deux passionnés d'histoire, Natacha Polony et Raphaël Glucksmann. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Et on va démarrer avec une petite interro surprise. Je sais qu'il y a des enseignants parmi nous, c'est le plaisir secret de tous les profs. Natacha, de qui est cette phrase ? L'histoire n'est pas écrite par des dieux.
Je crois que je sais.
Je pense qu'elle est de Raphaël Glucksmann.
Bravo !
Oh, bravo Natacha !
Elle est de Raphaël Glucksmann dans son dernier livre « Les enfants du vide ». Raphaël, qui a écrit « Ce n'est pas à la loi d'écrire l'histoire ».
Ça, c'est Natacha Polony.
Mais vous êtes absolument incroyable dans son livre également, Délivrez-nous du bien.
C'est un cours de logique, en fait, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Exactement. Plus difficile, et là, pour le coup, vous pouvez répondre tous les deux, qui a dit cette phrase suivante. L'histoire de notre pays, c'est une histoire d'absolu.
Ah. Oh.
Pas facile. Le président de la République, Emmanuel Macron.
Ah, voilà, ça nous a échappé.
Ça ne suscite pas d'applaudissements. Dans une vingtaine de minutes, le débat du samedi avec notre invité, c'est un formidable écrivain. Il refuse de vivre écrasé sous le poids du passé. Il se rebelle contre la mémoire officielle, notamment celle qu'on impose dans son pays, l'Algérie, là où le culte des ancêtres et des martyrs a fini par donner un teint jaune même aux nourrissons. Ce sont ces mots. Mais ici comme là-bas, qu'est-ce qu'une société doit faire de son passé? Nous ouvrirons le débat avec Kamel Daoud. Il publie un livre incroyable, Le peintre dévorant la femme, aux éditions Stock. Kamel Daoud sera donc au micro de France Inter tout à l'heure.
France Inter, Natacha Polony, Raphaël Glucksmann, le duel.
Et en direct donc des rencontres de l'histoire de Blois. Avant de parler d'histoire, comme tous les samedis, on revient sur l'actualité avec tous les deux, Natacha et Raphaël. Et on va démarrer avec l'attente, la si longue attente d'un remaniement. C'était jeudi, le Premier ministre était dans sa bonne ville du Havre. Il s'est fait poète et il a confessé un trait de caractère.
La mer, atteinte sans hâte et jamais maîtrisée. Je suis toujours impressionné par ce que dit Fernand Braudel et toujours d'accord avec lui. J'avais particulièrement hâte aujourd'hui, même si l'impatience n'est pas dans ma nature, comme vous avez pu le constater.
Le Premier ministre qui cite Fernand Braudel, nous avions envie de diffuser cet extrait. Est-ce que vous faites partie des impatients tous les deux, Natacha ?
Je pense qu'il faut cesser avant tout de commenter le vide. Et je pense que les journalistes, cette semaine, ont donné, hélas, l'image de ce qu'est la société du spectacle, et en l'occurrence du spectacle politique. Il fallait allumer les chaînes d'information continue pour comprendre en quoi nous sommes entrés dans un jeu profondément malsain, dans lequel...
Pourquoi malsain ?
Parce que vous aviez des commentateurs qui en arrivaient à expliquer que le président de la République, finalement, pour prouver qu'il était maître du temps, puisque c'est le maître des horloges, c'est la grande expression dont se gargarisent beaucoup de commentateurs, pour rester maître des horloges, devait attendre que les commentateurs aient fini de commenter pour faire exprès de leur dame et le pion. C'est-à-dire que des journalistes parlaient de leur propre rôle comme s'il était essentiel dans le choix du président et expliquaient que finalement, ils étaient en train de parler, mais que s'ils se taisaient, il se passerait enfin quelque chose. Donc, l'absurdité la plus totale.
Raphaël.
Là, je suis en grande partie d'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une question de personnel politique. Si ça avait été une question de personnel politique, du nom de la personne qui occupe un ministère, nous aurions aujourd'hui une transition énergétique et écologique assumée, puisque qui mieux que Nicolas Hulot pouvait mener le pays sur la voie de la transformation écologique? Et même Nicolas Hulot, qui est pourtant la personne donc idéale pour occuper une telle fonction, n'y arrive pas. Donc c'est un problème de...
Il reviendra peut-être.
De ligne politique, j'en doute sincèrement. Mais c'est un problème de ligne politique et donc le débat devrait porter plutôt que sur une attente de qui sera nommé où, eh bien, un débat sur la ligne politique qui est incarnée. Et à mon avis, dans la crise que vit actuellement la Macronie, il y a plus qu'une histoire de personnes, il y a une histoire de cohérence politique, d'horizon politique, et donc c'est de ça qu'on devrait parler.
On devrait parler aussi peut-être, et c'est quelque chose qui vous a frappé, de la différence de popularité entre le Premier ministre et le Président de la République. Ça, pour le coup, Raphaël,
oui,
ça vous étonne?
Je pense, non, mais surtout, je pense que le choix qui s'imposera à Emmanuel Macron, si ça continue comme ça, c'est de nommer Édouard Philippe à chaque ministère, parce que il y a quand même un réel paradoxe qui est intéressant à creuser. Je veux dire, un homme a créé un parti sur son seul nom, en mettant même ses initiales au principe de ce parti, En Marche, Emmanuel Macron. Et il y a eu une volonté affichée de restaurer la verticalité et de montrer que tout partait de l'Élysée. Moi, je pense que c'est fondamentalement erroné comme approche de la politique. Mais au-delà de ça, ce qu'on peut constater, c'est que ça ne fonctionne pas. Et que la personne qui était censée être effacée devient aujourd'hui le roc de ce pouvoir macronien. Et ça pose une question de fond, en fait, à l'approche de la politique qui était celle d'Emmanuel Macron.
Mais Raphaël, si ça ne fonctionne pas, c'est parce que derrière cette verticalité, il y a avant tout une conception qui est celle de la mort du politique.
Oui.
C'est-à-dire que derrière cette verticalité et l'appui sur la personnalité d'un homme, il y a l'idée que ce qui compte n'est pas le choix des citoyens, mais la bonne gouvernance. C'est-à-dire ce fantasme selon lequel il n'y aurait en fait qu'une seule politique possible qui serait la bonne. On est dans la droite ligne d'ailleurs de tout ce qu'on prenait ceux qui ont petit à petit dérégulé l'économie, que ce soit Bill Clinton, Tony Blair qui expliquait que il n'y a pas plusieurs politiques, il n'y a qu'une politique, c'est celle qui marche. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas d'alternative, et ce n'est pas un hasard si c'était la phrase mise en exergue de la première interview d'Emmanuel Macron quand il est arrivé au ministère de l'économie. C'est-à-dire que intrinsèquement, il est sur cette ligne qui est la ligne de Margaret Thatcher. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a qu'une seule bonne politique, c'est celle qui répond aux besoins de l'économie, et du coup, il n'y a pas besoin de démocratie, il n'y a pas besoin de personnel politique, il y a une administration et une bonne gouvernance.
Il y a une esthétique de la politique plutôt qu'un contenu de la politique. Vous savez, Emmanuel Macron a théorisé le fait que ce qui hante la France, c'est la disparition de la figure du roi. On aurait pu aussi théoriser que ce qui hantait la France, c'était la disparition d'un projet républicain plutôt que de la figure du roi. Et donc quand on veut
le public le Blois très quand attentif quand dans une veut, ville aussi marquée justement par l'histoire veut, de la royauté.
Quand on ne veut pas justement avoir un contenu de transformation sociale dans sa politique, quand on dévalorise, et c'est vrai, le fait politique en tant que tel, il nous reste une esthétique du pouvoir, une esthétique. Donc le pouvoir est censé se mettre en scène d'autant plus qu'il transforme moins la société. Roosevelt ou Léon Blum n'avaient pas besoin de faire semblant d'être Jupiter pour être respectés, ils incarnaient un projet. Voilà. Donc il y a ça. Mais il y a, et là-dessus nous accordons, il y a autre chose aussi, c'est cette approche française qui revient très souvent, qui est celle du sauveur, qui est celle de l'homme providentiel. Et qui est celle d'institutions qui ont été taillées pour un homme qui était réellement providentiel, le général de Gaulle en 1940, puis quand il y revient au pouvoir. Et je pense que cette vision-là ne correspond non seulement plus à la société française telle qu'elle est, mais en plus, elle ne correspond plus au type de personnel politique que nous avons.
Elle correspond d'autant moins que le général de Gaulle a forgé ses institutions parce qu'il concevait la souveraineté comme intrinsèquement liée à la démocratie. C'est-à-dire que son idée était qu'il n'y a pas de démocratie sans souveraineté du peuple et sans souveraineté de la nation. Il a donc forgé des institutions dans lesquelles le président gouvernait et décidait comme étant une émanation de la volonté du peuple. Ce qui n'est plus le cas puisque nous avons des politiques qui ont décidé que l'économie prévalait et que donc ce n'était pas la volonté du peuple qui prévalait. Ça ne peut plus fonctionner.
Oui, nous sommes d'accord, mais un peuple souverain n'a pas nécessairement besoin d'un roi. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'une incarnation unique comme le général de Gaulle le pensait.
Non, c'est un choix comme un autre.
Un choix comme un autre, mais les partis politiques sont mortels. Est-ce que le Parti Socialiste est victime de cette loi ou non? C'est un autre sujet, oui, politique et historique. Le PS qui quittait hier son siège de la rue de Solferino à Paris au moment où l'un des chefs de file de la gauche du parti annonce qu'il claque la porte, j'y arrive, et la fin d'une histoire vieille de 40 ans. Natacha Polony, c'est maintenant à reléguer aux oubliettes et aux livres d'histoire le Parti Socialiste? existe ?
En effet, les partis politiques sont mortels. La SFIO est morte. Elle a été remplacée par ce cycle qui a vu le congrès d'Épinay, puis l'aboutissement ultime qui est aujourd'hui, en effet, la disparition de ce parti par des forces centrifuges. Ça nous raconte qu'en fait, ces forces centrifuges étaient à l'œuvre depuis longtemps et pour ma part, je pense qu'elles étaient à l'œuvre depuis le moment où le Parti socialiste a été incapable de penser ce qu'était le néolibéralisme. Cela remonte en fait à la fin des années 70, puis en France, au tournant de 1983, le moment où François Mitterrand renonce.
Ah oui, donc
où
le il PS choisit... a mis du temps à mourir.
Bien sûr, mais un parti met toujours du temps à mourir. Mais la contradiction était dans les termes, puisque à ce moment-là, il décide, lui aussi, qu'il n'a plus de prise sur l'économie. Et nous voyons la fin de cette queue, puisque finalement nous n'avons eu jusqu'à présent que des leaders du Parti socialiste qui essayaient de cacher cela et de faire semblant de s'adapter. Ça a été toute l'histoire de la social-démocratie qui était en fait social-libérale puis libérale-sociale et qui a accepté la dérégulation.
Raphaël Glucksmann.
En fait, c'est la fin de l'alternance classique gauche-droite. Pendant très longtemps, le Parti socialiste, on pourrait dire la même chose honnêtement des partis de droite, n'avait pas besoin de formuler des idées, de formuler un horizon de transformation, d'avoir un projet collectif mobilisateur, puisqu'il suffisait d'attendre en réalité...
L'alternance était mécanique.
Voilà, l'alternance était mécanique. Ce qui a explosé aujourd'hui, c'est le fait de l'alternance mécanique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'est l'alternance à Emmanuel Macron. Il n'y a rien de naturel, il n'y a rien d'évident, il n'y a rien de logique dans la situation politique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ce qui est à la fois extrêmement inquiétant, si on est honnête, parce que l'alternance pourrait être quelque chose qu'on trouve dangereux, réellement dangereux pour les institutions démocratiques, pour la construction européenne, pour notre univers démocratique dans son ensemble, mais c'est aussi une opportunité de repenser à nouveau, de retourner à la bibliothèque, de retourner écouter les gens qu'on a délaissés sur le bord des chemins. C'est l'opportunité de refonder. Moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, les partis sont mortels, que les structures, les superstructures sont mortelles. Ce que j'espère ne va pas mourir, c'est cette aspiration qu'on a longtemps appelée la gauche, et dont on proclame aujourd'hui qu'elle n'est plus un terme qui colle à l'époque, mais qui est une aspiration à redonner à la politique un pouvoir sur les structures sociales, c'est-à-dire l'idée que la cité, dans son ensemble, peut inverser des structures de domination. Donc c'est cette aspiration-là, moi, que j'espère.
Comme il y a EM Emmanuel Macron en marche, il y aura peut-être RG, Raphaël Glucksmann, le Rassemblement de la Gauche, on ne sait pas.
Encore ce serait sans doute une possibilité.
Si jamais, je crée un mouvement et que je mets mes initiales, j'autorise à me fusiller sur le champ.
Non, nous sommes
mais je
très
pense que la gauche, disons, est un idéal et il s'agit de le redéfinir parce que cette gauche, ce terme gauche, s'est confondu avec des partis de gouvernement ou d'ailleurs d'autres partis contestataires sans que jamais on ne redéfinisse réellement ce qu'était l'aspiration au progrès.
Mais vous êtes
et là
d'accord
encore, on ne redéfinit pas
Raphaël
le progrès.
Glucksmann est d'accord de l'avis de décès qui remonterait à 1983 ou est-ce que c'est le traumatisme de 2017, Raphaël ?
Moi, je pense qu'il n'y a pas un avis de décès unique. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, le logiciel du Parti socialiste et de la gauche n'a pas du tout appréhendé ce que faisait la logique néolibérale dans les sociétés occidentales, qu'elle n'a pas compris la société de solitude.
Ah oui, donc vous êtes d'accord avec Natacha.
Mais moi, je pense qu'il y a d'autres moments. Il y a aussi la défaite de ce qu'on a appelé la deuxième gauche face à François Mitterrand.
Mais c'est cela, c'est-à-dire qu'elle a gagné dans les faits et du coup, on aboutit à l'échec absolu de cette politique. 1983, c'est la victoire de la deuxième gauche tué...
Non, pas
ça.
Du tout.
Mais
là, si on a une différence d'interprétation immense. La deuxième gauche, c'était
apparemment
pas
une différence d'interprétation qui se retrouve aussi dans le public qui nous accompagne ici.
La deuxième gauche, Natacha,
la
deuxième gauche,
c'est
pas l'adaptation au libéralisme.
Le libéralisme.
La deuxième gauche,
c'est
l'idée qu'on peut faire confiance aux gens pour organiser leur existence. C'est l'idée que la verticalité monarchique que s'est appropriée la gauche quand elle a pris le pouvoir n'est pas nécessairement la forme qui convient pour un peuple adulte. La deuxième gauche, c'était aussi l'idée d'être en phase avec la décolonisation que François Mitterrand n'avait pas compris. L'idée d'être en phase avec les mouvements de la société, l'idée d'être en phase avec les transformations sociétales qui ont émergé. Et donc, cette idée-là de la deuxième gauche, c'était pas une conversion au thatchérisme. Quand on reprend les projets...
Dans les faits, et là, c'est devenu ça. Et d'ailleurs, la parmi les...
Mais c'est intéressant de voir qu'on puisse reprocher, par exemple, à François Hollande la verticalité monarchique.
Oui, mais ça, c'est autre chose. Lisez le livre de Rosan Vallon, qui essaye d'explorer, qui prétend explorer l'histoire de la gauche. Il y a quelques rares moments de contrition et de d'autocritique. Et par exemple, cette idée que la deuxième gauche... hélas, prônait l'autogestion et qu'on est passé à la pure gestion. Ouais. Ce qui est vrai, c'est-à-dire que l'idéal de la deuxième gauche s'est abîmé dans l'acceptation du néolibéralisme. Et tous ceux qui incarnaient ce mouvement ont été incapables de lutter contre la dérégulation qui était en route, en fait, aux États-Unis à partir de 71 et à partir de la fin des accords de Bretton Woods et qui se traduit par l'arrivée de Reagan et Thatcher.
Et d'un mot, et on va changer de sujet, Raphaël. Ouais,
bien sûr qu'il y a un travail critique à faire sur notre propre logiciel. J'ai même écrit un livre qui explore cela, c'est-à-dire que l'idée que finalement notre approche a été incapable de faire face au néolibéralisme, que l'idéologie des droits de l'homme ne suffit pas, que l'idéologie de conquête de nouveaux droits ne suffit pas, qu'il faut une inscription dans des structures collectives. Et ça c'est quelque chose qu'il faut savoir faire, parce que sinon les dirigeants de la gauche ou les penseurs de la gauche ou les intellectuels de gauche vont ressembler à ces curés qui voient les bancs de leurs églises se vider et qui vont blâmer qui vont voir la preuve qu'ils ont raison de blâmer la terre entière dans la désertion des fidèles.
C'est un petit peu ce qui se passe. C'est sans doute la limite. Et vous êtes un des rares à essayer de réfléchir à ça, c'est-à-dire à cette articulation entre l'individuel et le collectif. Et pourtant,
c'est comme ça que ça va revenir.
Mais bien sûr, parce que pour l'instant, cet équilibre-là n'a pas été trouvé. Et on est justement dans une phase d'extension infinie des droits individuels qui abolit toute possibilité de forger une communauté politique.
Alors justement, à propos de droits individuels, il y a eu dans l'actualité et cette semaine un sujet passionnant, un sujet de débat qui concerne la société tout entière. C'est la parution de ce livre signé Marc-Olivier Fogiel, « Qu'est-ce qu'elle a ma famille ?», livre où Marc-Olivier Fogiel parle de ses filles, nées par le recours à la GPA. Marc-Olivier Fogiel qui était l'invité d'Ali Rebéi dans « Grand bien vous fasse » mercredi sur France Inter.
C'est l'évidence que ces enfants doivent être protégés. C'est un engagement de campagne d'Emmanuel Macron. J'ai l'impression que on réfléchit beaucoup à la façon de...
Pose les termes du débat, Natacha Polony.
C'est-à-dire qu'il pose les termes tels qu'il veut les poser, c'est-à-dire uniquement du point de vue individuel. Et c'est sans doute la traduction de ce qui, de l'idéologie qui est à l'œuvre dans notre époque. C'est-à-dire que finalement, serait bon tout ce qui ne nuit pas à autrui. La question est de savoir ce qu'on définit par nuire à autrui. Que des individus veuillent élever des enfants, mais les avoir aussi de la façon dont Marc-Olivier Fogiel explique qu'il les a eus, c'est-à-dire par mère porteuse, et on va rentrer dans les détails.
Parce que ce n'est pas mère porteuse, c'est une femme porteuse, comme le dit Marc-Olivier Fogiel, c'est-à-dire que les ovocytes n'étaient pas ceux de la femme qui a porté la petite fille.
Exactement. Et on comprend parfaitement quand on entend l'extrait. Oui, il faut protéger ses enfants, puisque ses enfants sont là, ils doivent avoir les mêmes droits, et il faut absolument que la société pense cela. En revanche, nous devons aussi penser ce que signifie le fait de choisir par la technique, par exemple, de dissocier la donneuse d'ovocytes et la femme porteuse, pour justement que ce ne soit plus une mère porteuse, pour supprimer cela. Qu'est-ce que cela fait ? Ça ne se règle pas à titre individuel. Dans les choix d'un individu, en effet, cela ne pose aucun problème. Et on a là une famille qui s'aime
et
qui a voulu...
Une histoire qui a voulu... Donc ça ne vous choque pas ?
Mais c'est pas que ça ne me choque pas. Je ne suis pas là pour être choquée. Je suis là pour essayer de comprendre la différence entre la problématique collective, c'est-à-dire la façon dont nous devons concevoir les limites aux droits individuels et l'articulation entre ces droits individuels et la façon dont nous construisons une société.
Et Raphaël.
Et autant sur la PMA, je ne comprends pas, et là je vais être très honnête, je ne comprends même pas, puisque ça ne nuit objectivement pas à autrui, je ne comprends pas les objections, je ne comprends pas les levées de boucliers. Autant sur ce qu'on appelle la GPA, il y a effectivement une question sociale à poser qui est extrêmement importante et qui donc ne peut pas résumer cette histoire à la quête de liberté et de droits individuels. C'est-à-dire que si on autorise cela, quelles vont être les conséquences sociales ? On doit prendre en compte ça quand on prend des décisions. Et est-ce qu'on va avoir des classes sociales qui seront vouées à être des ventres ? Et finalement, comment au nom de quelque chose que moi je comprends tout à fait, qui est un droit individuel, un désir individuel, on va aboutir à une stratification sociale désastreuse pour la cohérence de nos principes communs.
Mais il n'est pas question d'inscrire la GPA dans la loi,
non,
en l'occurrence.
Bien sûr. Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que derrière
c'est
ça,
la protection de ces enfants qui reviennent en France.
Non, mais pour moi, la protection de ces enfants, c'est absolument clair. Je veux dire, là, on va même pas avoir de débat, je pense, entre nous ici, sur cette question.
Donc, en revanche, le problème qui se pose est le fait que aujourd'hui, nous sommes dans une période où le fait dicte le droit, c'est-à-dire au nom du fait que tout cela existe et est possible dans d'autres pays, on explique que le droit en France serait en retard et qu'il faudrait donc adapter. Mais le droit ne doit jamais être dicté par le fait. Le droit doit être dicté par des principes collectifs qui sont délibérés en commun.
Après, il faut bien répondre à certaines situations et à certaines familles qui se composent d'une manière inattendue.
On répond au fait en protégeant, mais après, on réfléchit à deux dimensions. La dimension sociale dont parle Raphaël, c'est-à-dire le fait qu'évidemment, on va aller vers une différenciation sociale, c'est-à-dire que, encore une fois, quand on aura des femmes riches qui prêteront leur ventre, on pourra se dire que c'est peut-être quelque chose d'altruiste, mais curieusement, ça n'est pas le cas. Et il y a le deuxième fait qui est l'utilisation de gamètes comme matériaux génétiques, c'est-à-dire et la dissociation entre ce matériau génétique, celle qui porte l'enfant, et ça, c'est encore une autre problématique plus complexe.
Encore un mot, Raphaël, sur le sujet.
Alors, juste sur le fait qu'il ne dicte pas le droit, c'est seulement vrai en partie, c'est-à-dire que le droit doit forcément, dans sa formulation, intégrer les évolutions de fait d'une société. Et donc, c'est un débat qui est extrêmement complexe, et on doit encore une fois, on l'a déjà fait à ce micro, saluer le fait qu'en France, ce débat-là est un débat public, républicain, non pas dicté par le marché, mais dicté par la volonté générale.
Et passionnant en l'occurrence, et il est posé donc cette semaine avec ce livre signé Marc-Olivier Fogiel. On va en rester là pour les questions d'actualité, vous restez tous les deux à mes côtés pour accueillir maintenant notre invité.
Le grand face-à-face, Ali Badou, sur France Inter.
Le grand face-à-face, toujours en direct des rencontres de l'histoire de Blois, en direct et en public. Et avec nous, un intellectuel engagé, journaliste, formidable écrivain. Il a en commun avec vous, Natacha et Raphaël, d'avoir beaucoup réfléchi sur le rapport qu'une société doit entretenir à son histoire. Lui se dit né parmi des gens qui ont le culte de l'histoire, mais une histoire vide, désincarnée. C'est ce qu'on peut lire, entre autres, dans son dernier livre, Le peintre dévorant la femme, chez Stock. Bonjour Kamel Daoud.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Si j'ai un conseil à donner à tout le monde, c'est de passer une nuit avec vous. On ne s'ennuie pas une seconde, puisque dans ce livre, vous racontez une nuit que vous avez passée seule au musée Picasso au cœur de Paris. C'est magnifique, sincèrement, et on va évidemment en parler. Et ça ne vous empêche pas, malgré tout, malgré ce cadre magnifique, historique, de réfléchir au passé, de critiquer la mémoire officielle qu'on impose dans votre pays, l'Algérie, de critiquer aussi, de dénoncer la folie destructrice des islamistes qui veulent faire disparaître toute trace de ce qui, dans le passé, ne s'accorde pas avec leur foi. Vous vous êtes rêvé en copiste du Moyen-Âge ?
Quelque part, oui. C'était avant l'invention de l'imprimerie, donc c'était un bon métier. C'était un métier quasiment fétichiste, un métier utile. C'est un métier qui est celui d'un fantasmé par tout écrivain, quelque part.
Alors, ça va intéresser tous les passionnés d'histoire ici à Blois. Vous avez une réflexion qui m'a fasciné sur le sens d'un mot qui donne sens à tout ce qui nous réunit, nous tous ici. C'est le mot « avant ».
D'accord.
Avant, définition, Kamel Daoud.
Avant, A-V-A-N-T ?
Exactement.
D'accord.
Avant. Il y avait quelque chose avant la proclamation de la guerre ou la révélation, je vous cite.
Disons que je vis dans un pays où on a, bien sûr, un culte de l'histoire. Mais c'est un culte, je reprends le mot, très fétichisé. C'est-à-dire on a le culte d'un récit de l'histoire, mais pas pour en fabriquer une légitimité politique, une légitimité religieuse, et pour empêcher un petit peu qu'on prenne responsabilité, qu'on prenne conscience des responsabilités du présent. Donc tout le monde parle du passé, que ce soit un passé religieux, c'est Allah qui le raconte, ou d'un passé national, d'un récit national, et ça c'est le décolonisateur en chef qui le raconte, mais le passé en lui-même, en tant que musée, en tant que pluralisme quelque part, qui est rétrospective, en tant que diversité, n'existe pas.
Il n'existe pas. Cet avant est rejeté, banni dans le récit religieux ou nationaliste. Vous citez Orwell, l'un des écrivains préférés de Natacha.
Oui, en effet. Et vous citez également... Alors, d'abord, je voudrais commencer en disant à quel point ce livre, Le peintre dévorant la femme, est une splendeur. Une splendeur parce qu'il interroge ce que nous avons de plus intime, c'est-à-dire le désir, c'est-à-dire l'érotisme. On parle, en effet, d'histoire, mais on parle aussi d'incarnation. Et dans cette histoire recomposée, celle de l'Orient et celle de l'Occident, il y a la question de l'incarnation et la question de la représentation de l'incarnation. Le rapport à l'image dans l'histoire est absolument essentiel. Et c'est de cela aussi que vous nous parlez, parce que dans ce rapport à l'image, il y a la possibilité pour l'homme de se penser comme un corps. Vous expliquez merveilleusement à quel point il y a une décomposition du temps. Il y a d'abord le désir, puis il y a la mort. Et quand l'un devance l'autre... alors on est dans la folie et la monstruosité.
Kamel Daoud.
Tout à fait. Le corps est pour moi ma seule propriété. C'est la seule chose que je possède et c'est la seule chose que je défends. C'est ma seule différence avec les anges, les diables et les dieux. Et ça, je l'avais compris très très tôt. Et j'ai compris aussi que ce que je dis dans le livre, quelque part les monothéismes sont l'ordre d'affaires des corps. Or, on nous impose une équation qui est désastreuse à la base. C'est celle du salut qui passe non pas par le corps, mais à travers le corps. C'est-à-dire il faut marcher sur son propre corps pour connaître le salut. Et là, on est dans un premier dérèglement. Le deuxième, lorsqu'on ne fait pas coïncider la vie et le désir, et qu'on intercale entre les deux la mort. La femme qu'on veut rencontrer, on veut la rencontrer après sa mort, c'est-à-dire après s'être tué, avoir tué les autres. Et on est dans cette monstrueuse mise en sursis de la vie et du désir, et de l'assouvissement du désir et de l'orgasme. Et je trouve que c'est une équation à comprendre et à démanteler pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe, pour pouvoir comprendre pourquoi nous avons ce rapport trouble à l'image. Pourquoi nous pensons que le seul moyen d'imposer une voix, c'est de détruire l'image, et cela va de la destruction des statues à Palmyre au meurtre sur un caricaturiste, à la réaction très violente face à une image. Et puis, au problème que nous avons avec la représentation. Chaque fois que je prends parole en Occident, on m'accuse d'être traître parce que nous avons un problème de narcissisme
traître
postcolonial. Traître à l'image que l'on se fait de soi-même et des siens. C'est-à-dire, vous avez beaucoup de Maghrébins, par exemple, qui vivent ici depuis 15, 20 ans, mais qui n'acceptent pas que je parle de ce que je vis, moi, maintenant. Parce qu'ils ont une image narcissique qu'ils entretiennent, qui est peut-être maintenant pas légitime, mais qui s'explique. Ce sont des gens qui ont besoin de cette image pour se protéger contre ce qu'ils perçoivent comme étant l'agression de l'Occident, la blessure occidentale telle que je l'ai. Et donc, si vous faites dégression, si vous sortez, vous êtes une voix singulière qui n'accepte pas cette image fantasmée sur soi, vous êtes traître.
Raphaël Glucksmann, et ensuite on va ouvrir le débat justement sur le rapport au passé.
Oui, sur ce livre d'abord, parce que c'est un livre absolument incroyable, c'est vrai. C'est extrêmement compliqué en littérature de parler et d'art et de sexe et d'érotisme sans que ça devienne kitsch ou vulgaire en fait. Et vous avez cette magie des mots qui fait que quand on vous lit, eh bien, il y a réellement un ressenti de ce désir. C'est une expérience érotique, en fait, la lecture de tout le début du livre. Je sais qu'il est tôt et que c'est pas forcément ce dont il faudrait parler.
Il est midi et demi, c'est tôt pour vous, Raphaël. Non, on voit la vie de l'écrivain et de l'intellectuel de gauche.
C'est tôt pour parler de sexe à la radio. C'est ça que je veux dire. Mais c'est un livre sexuel aussi. Enfin, il y a des passages qui sont absolument incroyables sur le désir. Et je trouve que votre langue, les mots, la manière dont vous structurez vos phrases rendent justice à l'érotisme en fait. Et je voudrais dire que vous m'avez fait penser en vous lisant aux paroles que sur son lit de mort m'a dite Abdelwahab Medeb, qui dit au fond ce qui unit tous ces iconoclastes, tous ces obtus, tous ces identitaires, tous ces fanatiques, c'est qu'ils veulent enlaidir le monde. C'est qu'ils n'acceptent pas la beauté et que la beauté n'est du mélange et de l'hybridisation des choses. Et donc, je voudrais vraiment vous féliciter pour votre livre. Maintenant, j'ai une question. Vous employez un mot que nous, on n'emploie plus vraiment.
Parlez bien dans le micro, Raphaël.
En France, en tout cas. Plusieurs fois, vous répétez le mot « Occident », comme si c'était une entité. Et comme nous, on ne sait plus vraiment ce que c'est, j'aimerais savoir ce que vous entendez par « Occident », en fait.
D'accord.
Kamel Daoud.
Généralement, je sais réagir à l'adversité, mais pas à l'éloge, donc merci.
L'adversité arrive. On va créer le dissensus, ne vous inquiétez pas.
Non.
Mais c'est ça la beauté de la francophonie. Merci à un écrivain algérien de venir définir des mots que nous employons ici en France, le mot avant, et donc maintenant le mot occident.
Je suis toujours heurté quand on me dit vous parlez arabe dans votre pays, alors que dans mon pays, comme d'autres, personne ne parle arabe dans le monde que vous appelez arabe. Et en même temps, je récuse cette formulation de monde arabe. C'est ce qui fait que parfois j'emploie à volonté cette expression de monde dit arabe et puis d'Occident. Je rêve d'une sorte de métier. C'était autant qu'il y a eu des orientalistes, je rêve d'être occidentaliste. Mais de venir chez vous, vous regarder, vous consoler peut-être, parce que vous parlez de l'attentisme à propos des ministres. Nous, ça fait exactement 20 ans qu'on attend le remaniement présidentiel.
Et apparemment, il n'est pas prêt d'arriver. Vous êtes très patient en Algérie.
D'accord. Et en même temps, j'aime bien votre expression sur les commentateurs du vide. Moi, c'est mon gagne-pain. Ça fait 20 ans que je commente le vide, comme beaucoup d'Algériens. Donc, c'est quand même un métier qui...
Comme éditorialiste au quotidien d'Oran, notamment.
Notamment, mais
à travers vos chroniques, vos livres.
Je pense qu'il y a un métier qui est à l'origine de la métaphysique, celle de commenter le vide. Mais bon, pour revenir un petit peu à ce métier-là, je me rêve comme occidentaliste, je me rêve comme quelqu'un qui est là, non pas pour, dans une position ni de pleurnicherie, ni de demande de réparation, ni d'égalité un peu utopique et idéalisée, mais je suis comme un vis-à-vis. Je viens chez vous en tant que prédateur aussi. Je veux des idées, je veux des livres, je veux des solutions, et là, vous ne les avez pas, moi, je les cherche ailleurs. Donc, je suis dans ce rapport-là.
Mais vous dites, Raphaël, je voudrais posséder l'Occident, et moi, j'aimerais bien savoir qui sommes-nous, en fait ? Qui on est ? C'est quoi cet Occident-là ?
Ah bah, c'est pas moi de...
Répondez à l'angoisse identitaire de Raphaël.
À quelqu'un qui vient et qui dit, je voudrais posséder l'Occident. Moi, j'ai envie de lui dire, mais c'est quoi ?
C'est très difficile à définir pour quelqu'un qui vit dedans. Je suis en train de relire Orhan Pamuk, d'autres couleurs, qui parle un petit peu de cette question qu'on pose souvent
aux écrivains. Le prix Nobel turc.
Des Méditerranéens, c'est qu'est-ce que la Méditerranée pour vous ? Il a dit, c'est très facile de répondre quand on est suédois ou quand on est norvégien. Mais quand on est méditerranéen, c'est très difficile. Pour nous, la Méditerranée, c'est la mer, avec un majuscule. Donc, les océans n'existent pas. Donc, un petit peu l'Occident, moi, je peux le définir plus ou moins. Oui. De l'autre côté, c'est ce qui n'est pas moi. C'est un rapport qui est différent à Lima. C'est un rapport qui est très différent au corps,
à l'histoire,
à la femme aussi, à la littérature et à la culture. Donc c'est ce qui me différencie de vous. Mais je ne veux pas que cette différence soit irréductible et qu'elle soit une sorte de stigmate culturel de Paris d'Ordre qui répartisse le casting. Mais ce sont des points d'enrichissement.
Natacha. Justement, cette différence, finalement, vous la racontez au début du livre, puisque vous êtes ce regard extérieur qui est un regard que vous décrivez presque... traumatisé par les images des femmes que vous voyez qui sont partout en Occident. Sans doute que on en revient à cette histoire de l'image qui est essentielle. Tout le livre tourne autour de ça, de la représentation. La capacité à représenter s'est abîmée en Occident, c'est-à-dire qu'elle devient une façon d'étaler des corps vides et instrumentalisés et utilisés comme des objets et comme un moyen de vendre. Et vous êtes, vous, dans la réflexion sur le corps et l'image retraçant le désir et à travers le rapport du peintre et de son modèle, à travers le besoin de dévoration qu'est le désir, vous racontez ce que c'est véritablement, ce que devraient être les images, ce qu'elles ont pu être en Occident mais qu'elles ne sont plus.
Kamel Daoud.
Peut-être. J'ai eu ce privilège, c'est une situation de privilège que de se promener dans un musée avec une exposition aussi chargée de corps et de chair et de sensualité.
Le musée Picasso, donc, au cœur de Paris.
C'était 1932, année érotique pour Picasso. Mais en même temps, j'y venais, non pas comme spécialiste, mais comme maraudeur, quelque part. Je n'avais aucune culture, je veux dire, picturale. Mais ceci, c'est ce qui m'a servi un petit peu à regarder autrement ces tableaux. Pour moi, je les ai regardés comme étant des miroirs, comme étant des limites. Et je voulais aussi me poser la véritable question et la question la plus radicale. Est-ce que je veux regarder, reproduire ou détruire ? Et pourquoi ?
Et regarder, détruire, c'est évidemment l'un des gestes que vous abordez dans ce livre et l'obsession, je le disais, des islamistes de vouloir absolument détruire tout ce qui aurait pu montrer la trace d'un passé avant la révélation. Mais j'aimerais qu'on aborde une question que vous abordez dans votre livre. Vous qui critiquez la mémoire officielle de votre pays, l'Algérie, est-ce que vous vous sentez bien ici au milieu des historiens, en rencontre de l'histoire ? Quel est votre rapport à l'histoire ?
Alors, c'est un rapport d'allergie, de détestation au début, parce que...
Ben voilà, voulais qu'on ouvre comme discussion.
Il y a une
très
belle phrase d'un romancier russe, je crois, qui disait que pour certains peuples, le seul présent, c'est le passé. Et on m'a toujours inculqué le passé, d'une manière ou d'une autre. On se sentait presque coupable d'être né après la guerre de libération. On se sentait endetté à la naissance. Des gens sont morts pour vous, donc vous commencez à payer dès maintenant. Les chaussures que vous portez, les habits, oui. Le toit, la canalisation d'eau, la route, etc. Donc, il y avait ce rejet profond. J'avais rencontré à l'époque un écrivain. J'avais peut-être 13 ans. C'était André Gide, Les nourritures terrestres. Et pour moi, c'était la première leçon d'immédiateté et de la légitimité de demander et d'exiger l'immédiateté, pas l'histoire. Donc, mais en même temps, je suis quelqu'un qui lit énormément d'ouvrages d'histoire. Mais les autres histoires, ça me permet de me libérer du récit de l'histoire.
Vous libérez de l'histoire. Ouf! Enfin! Ne plus être écrasé par ce passé-là.
Exactement.
Oui, mais
Natacha, vous qui êtes nostalgique justement, qu'est-ce que vous répondez à un homme comme
Camille Laoud? Non, mais c'est vrai. Vous qui êtes nostalgique.
Il faut bien durcir les termes du débat et je ne caricature pas trop quand même.
Disons que je suis effrayée par un monde dans lequel la nostalgie serait criminalisée. Parce que la nostalgie, pour moi, n'est pas le fait de rêver d'un retour vers un passé mythifié, mais l'idée que on regrette quelque chose qui n'a jamais existé. Le vrai nostalgique sait que tout cela est mythique et que cela n'a jamais existé. Et j'aime beaucoup les réflexions de Régis Debray sur la nostalgie, puisque Régis Debray explique que les vrais révolutionnaires sont profondément nostalgiques et que c'est cette nostalgie qui les porte à penser un idéal. C'est-à-dire qu'on peut aussi voir l'histoire comme une façon de se donner la possibilité de penser autre chose que le présent, puisqu'on sait que tout cela, finalement, est profondément relatif, que ce que nous croyons inventer a déjà sans doute existé, et que nous allons nous appuyer dessus pour aller chercher autre chose, chercher un idéal.
Kamel Daoud.
Disons que le mot nostalgie, il a décharge cette charge de sentimentalité, de sentimentalisme, de rêverie quasiment personnelle. Mais il y a un mot encore plus radical, et c'est ce mot-là que je rejette, c'est le mot restauration.
Oui.
Le mot restauration traverse quasiment toute l'idéologie, toute la littérature politique dans le monde que vous appelez arabe. C'est le fantasme profond de tous les radicaux, restaurer le royaume, restaurer le califat, restaurer les temps bénis. Et cette restauration, elle est là, elle se décline mais de mille manières, y compris dans l'esthétique kitsch de tous les jours, les stèles, les monuments, le culte des morts. Toutes les rues algériennes portent des noms des morts. Donc tout mène au cimetière finalement. Et on est dans cette obsession de la mort du passé. C'est pour ça que le mot nostalgie, c'est quelque chose que je peux me permettre, mais le mot restauration, c'est quelque chose
bien
que
sûr,
je refuse.
C'est très différent.
Mais en fait, il faut lire Raphaël. Vos réflexions sur l'histoire algérienne, sur l'histoire officielle qui rend une société schizophrène, parce qu'on sait aussi en même temps que c'est pas ça la vérité, qu'il y a autre chose, qu'il y a une hybridation. Mais il faut vous lire en imaginant ce que ça serait transposé ici. Et moi, l'image qui m'a frappé, c'est comme si, en fait, Éric Zemmour était devenu le narrateur officiel de l'histoire de France. et que, non, mais c'est ça. Et qu'on était obligé de vivre dans le zémourisme. Et avec cette quête d'une restauration d'un passé mythique.
Il est né en Algérie, je crois.
Ouais.
Oui. Il a... ouais. Il y a peut-être un lien.
Non, mais c'est ça. Et avec un livre officiel, le suicide français serait devenu le livre officiel. On n'a pas le droit de lire autre chose. On n'a pas le droit d'enseigner autre chose. Et tout d'un coup, on a une société. Quel type de société cela donne?
Mais en même temps, ça construit quelque chose de plus terrible, ce désir de restauration. C'est le déni. Et le déni, c'est la religion la plus répandue dans le monde musulman. Ce n'est pas l'islam, vous vous trompez. C'est le déni, c'est le fait de refuser le présent, de refuser l'analyse, de refuser la critique, de refuser tout regard qui est porté par autrui. On se sent toujours blessé et attaqué parce que quelqu'un pose le regard, pose une interrogation. On se sent privé de ce que j'appelle, de ce qui est devenu maintenant une sorte de rente. Il y a une rente postcoloniale, elle est universitaire, elle peut être spécialisée. Il y a une rente au nom du passé. Et c'est une rente qui se décline. Elle est politique, elle est éditoriale, elle est littéraire, elle est individuelle.
Mais on peut vous dire aussi que c'est ce qui cimente la nation algérienne.
Non, c'est ce qui cimente le pouvoir pour le moment. Nous, on part dans tous les sens.
Et est-ce qu'une société, justement, a besoin d'un roman national? Est-ce qu'elle a besoin d'un récit national officiel comme celui-là?
Est-ce qu'une société peut éviter un roman national? C'est la bonne question. On ne peut pas l'éviter, mais qu'il soit plus ou moins réaliste et que c'est loin de la science-fiction, de l'histoire-fiction.
Non, et c'est très important quand on lit ça, quand on écoute cela, de ne pas se dire que c'est le signe d'un retard. Parce qu'il y a une tendance en Occident, puisque vous avez défini le terme, de penser que ceux qui suivent un autre chemin sont en retard. Or, malheureusement, je pense que nous avons, nous, tendance à de plus en plus à ressembler au portrait que vous faites de l'Orient. Et que nous avons tendance de plus en plus à vouloir s'abriter de toute pensée, de toute analyse critique.
N'oubliez pas le micro, Raphaël.
Derrière ce roman national. Et donc il y a chez nous, chez nous une tendance à l'évolution et ça dément tous les mythes sur le progrès naturel de l'histoire où les sociétés qui sont en retard vont nous rejoindre. C'est complètement faux. On peut tout à fait marcher en arrière et rejoindre cela. C'est ce qui se passe et qui est aujourd'hui. Il y a eu la maladie de l'islam. On a dit, j'ai parlé d'Abdelwahab Medeb, mais il y a peut-être aujourd'hui une maladie de l'Occident dans cette quête de restauration là.
Je voulais juste préciser qu'effectivement ça existe. Nous avons aussi dans nos territoires une sorte de positivisme dans le sens inverse. C'est-à-dire plus on remonte l'histoire, plus on va vers le mieux. Et c'est un petit peu l'inverse de ce qui se passe ici en Occident. Je suis tout à fait d'accord aussi qu'il ne faut pas porter un jugement de valeur, mais un jugement de nature. C'est-à-dire nous avons une conscience à réformer. Il est impératif pour nous, au Sud, d'assumer le présent. Et le présent, il est douloureux. Et il n'a pas encore d'histoire.
Par définition, oui. Natacha.
C'est un présent aussi qui essaye d'abolir l'histoire dans sa complexité. Le wahhabisme est par définition la négation de l'historicité et surtout le refus du fait qu'il y aurait des variations dans l'histoire, des complexités, des conflits. Le véritable récit national est sans doute celui qui arrive à intégrer ce fait qu'il y a des moments de lutte, des moments de conflit, des moments qu'on ne résout pas et qu'il va falloir par cette diversité raconter ce que peut être la diversité à venir.
Exactement. Disons que ce retour vers le passé se décline de trois manières, à mon sens. La première, c'est ce qu'on appelle le baptisme, c'est-à-dire restaurer une unité arabe mythique qui n'a jamais existé. Donc là, ça a été quand même le pain béni de beaucoup de partis politiques durant les années 60, 50 jusqu'aux années 70. Et on a inventé le panarabisme avec ça. Mais il fallait pour d'autres remonter encore plus loin. Et là, on est dans une formule plus religieuse et moins laïque, c'est l'âge d'or. Et l'âge d'or aussi, c'est un roman. Enfin, là, c'est plus un roman, c'est une trilogie. Et national aussi, et pas national, transnational. Et puis, il y a une proposition encore plus radicale. C'est-à-dire, on va dépasser l'âge d'or, remonter encore plus loin vers le moment zéro, le moment de la radicalité pure, le moment de la révélation. Et toute révélation monothéiste suppose un désert. Et donc, il faut restaurer le désert pour restaurer la parole de Dieu.
Raphaël.
Non, et encore une fois, c'est... Les prémices de cela existent en Europe. Aujourd'hui, en Hongrie, on s'attaque à l'histoire. On s'attaque à l'histoire et on veut la remplacer par un mythe de la nation hongroise originelle qui, en plus, ne correspond pas aux frontières de l'état actuel de la Hongrie. Et donc, on a cela en Russie. On a cela aussi avec la réécriture de l'histoire soviétique.
D'où la question que je posais. Est-ce qu'une société a besoin de roman national, d'un récit officiel?
Est-ce qu'une société peut survivre à un tel roman national? Est-ce qu'on peut encore être libre quand on nous impose une telle réécriture de l'histoire et une histoire officielle?
Oui, mais en face, il y a aussi la tentation d'abolir l'histoire au nom des individus eux-mêmes. Et en fait, nous sommes pris entre deux feux. C'est-à-dire qu'il y a aussi, en Occident aujourd'hui, ce travail des droits individuels qui consiste à dire « je suis né de nulle part et de rien et j'invente en permanence ce que je suis pour ne rien devoir à ceux qui m'ont précédé ». Donc le problème est de trouver la juste mesure entre les deux et surtout de ne pas rentrer dans l'idée d'une histoire qui serait une et unique, mais qui intégrerait la diversité.
Kamel Daoud.
Et en même temps, pour aller dans votre sens, c'est qu'on est aussi dans une situation où la nostalgie, la restauration, le passé, le roman national sont des grands marqueurs des populismes qui montent. Ouais. Tout populisme repose sur l'idée de restauration et de retrouver le territoire perdu, la terre perdue, la vallée sacrée, l'île vierge, le continent sublimé, etc. Donc c'est un grand marqueur de tous les populismes et les intégrismes qui montent. Ils sont trois marqueurs à mon sens. Le rapport à la femme, donc ce n'est plus une femme qui incarne le désir ou qui le vit ou qui l'exige, mais la mère porteuse, le corps des valeurs ancestrales et traditionnelles. Le rapport au corps, le corps est nié. C'est l'uniforme qui prend la puissance et il domine le multiforme. Et le troisième rapport, c'est la restauration. Revenir vers le passé et restaurer. Ce sont les trois marqueurs qui fonctionnent pour recruter maintenant.
Oui, Natacha.
Oui, mais je pense que dans cette mécanique-là des populismes, il y a aussi la réponse à cette souffrance qui est créée par l'abolition petit à petit des liens qui peuvent être ceux d'une communauté. Tout ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est cette difficulté à penser une communauté qui n'écrase pas l'individu, un passé qui n'écrase pas l'individu, mais qui au contraire le porte. Or, nous sommes dans un Occident qui, lui, s'est construit depuis la Renaissance sur l'idée de progrès, qui ne pense le progrès que comme étant parfaitement linéaire en s'abstenant de définir ce qui créerait un progrès, c'est-à-dire c'est-à-dire en s'abstenant de se demander si le progrès est avant tout un progrès de l'homme. Nous avons abandonné cette idée d'un progrès moral et d'un progrès de l'homme dans sa plénitude humaine. Nous pensons le progrès comme un progrès technique, devant s'abolir d'un passé qui de toute façon était inférieur. Et donc ça provoque une souffrance qui aboutit à une réaction violente.
Mais il y a eu un très grand débat autour d'un livre, L'histoire mondiale de la France. Vous connaissez bien Patrick Boucheron, Kamel Daoud, vous l'avez lu. C'est une démarche qui vous avait intéressé. Et ici, tout le monde, aux rencontres de l'histoire, se souvient de la polémique qu'a suscité la publication de ce travail qui avait réuni de très nombreux experts. Natacha, par exemple, qu'est-ce que vous aviez pensé de ce livre ?
Je pense que ce livre fait partie d'une sorte de bataille idéologique assez malsaine où on a certains penseurs qui croient que l'histoire doit être une et indivisible et qui essayent de la réduire à ce qui les arrange, et qu'en face on a des penseurs qui s'imaginent qu'en abolissant l'idée de la nation, on va forcément combattre ces forces qui sont des forces négatives et qui sont des forces de l'unicité. Mais c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à articuler, encore une fois, le divers et l'un.
Raphaël.
Bien sûr qu'il faut articuler le divers et l'un, et qu'une société ne peut pas tenir sans un projet commun et sans une histoire commune, sans un récit commun. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais ce livre, c'était d'abord une réaction dans une scène idéologique qui commençait à être dominée de manière suffocante par les tenants de l'unicité, par les tenants de l'abolition du monde quand on parle de la France. Et donc, il a été présenté comme ça. C'était une arme idéologique, ce livre. C'était une réaction aux réactionnaires. Et donc, en ce sens, elle était salvatrice sur la France. C'est pas ça qui va nous faire l'histoire de France. D'ailleurs, c'est pas la prétention non plus du livre.
Kamel Daoud.
Si je parle en images et en formule, j'ai l'impression que vous, dans votre pays, vous avez l'angoisse de quelqu'un qui entre dans une librairie spécialisée en histoire et qui parle de l'histoire de la France, et vous avez l'angoisse du choix, alors que moi je suis dans une librairie où il n'y a qu'un seul livre. Donc...
Oui, c'est très très bien formulé. Et d'ailleurs, vous vous sentez mieux au milieu des historiens, ou dans un musée, ou sur une plage ? La plage, elle revient souvent dans vos livres.
C'est le dernier, en termes de topographie philosophique, c'est le dernier lieu de la bataille philosophique de ce siècle-là. On a perdu sur tout le reste, maintenant reste la bordure de mer. Là, on va se battre pour bikini, burkini, terroriste, touriste. Bon, on est toujours dans cette bataille. Par exemple, en Algérie et au Maghreb, la bataille pour le contrôle des plages, elle est extraordinaire. Mmh. Les gens viennent prier pour intimider les femmes qui nagent en bikini. Ouais. Et en même temps, on construit partout des mosquées sur les plages pour marquer le territoire. Et la plage est aussi le lieu de départ. La mer est vue par ici comme étant le bord du monde. De l'autre côté, c'est la muraille de Chine. Donc la plage est devenue vraiment la topographie philosophique idéale de notre siècle.
Et c'est intéressant parce que chez nous aussi, en fait, dans ce que vous appelez l'Occident, eh bien, la plage est un enjeu, mais qui n'est pas un enjeu lié en tout cas encore à ces identitaires ou à cette folie fondamentaliste. Non, mais chez nous, elle est aussi liée à un autre enjeu qui est celle de la privatisation de la plage. C'est-à-dire que ce qui est fascinant aussi en Occident quand on se balade par exemple sur les plages italiennes, c'est qu'il n'y a plus aucun espace de rencontre ou aucun espace public. Il n'y a que des transats où on doit payer pour accéder même à la mer.
Oui, mais en même temps, la plage est le lieu par où arrive le corps du migrant noyé par où arrive le migrant. Donc on est aussi dans cette... C'est pour ça que je rappelle, c'est vraiment la topographie idéale pour une séance de philosophie sans fin.
Natacha. Oui, et ce n'est pas un hasard, on en revient à ce que nous disions tout à l'heure, c'est le lieu où les corps se montrent. Et le corps en lui-même est profondément révolutionnaire parce que, et vous le dites très bien, dans le corps, il y a cette possibilité d'exister sans Dieu. Par le désir et par le plaisir, tout à coup, nous n'avons plus besoin de Dieu. Et c'est cela qui est considéré comme un danger absolu par tous les monothéismes.
Exactement, je suis tout à fait d'accord. Vraiment, la place comme lieu, c'est le dernier coin où le corps se réfugie. C'est le dernier lieu où le corps se montre. Il vit la métaphysique la plus immédiate, celle de la mer. Romain Gary disait cette très belle phrase, la mer c'est la seule éternité qu'on peut toucher de la main. Et je trouve ça formidable. Au bord de la plage, on n'a pas besoin des dieux, on n'a pas besoin de l'éternité, on ne se soumet pas par la prière, on ne rêve pas le salut mais le bronzage. Et je trouve que le contraire absolu des monothéismes, c'est le bronzage.
Il nous reste quelques minutes, Raphaël. Ça, c'est une très très belle formule. J'aimerais juste d'un mot, parce que vous n'allez pas y échapper, Kamel Daoud. Vous êtes un écrivain, un intellectuel algérien en France. On doit parler de la guerre d'Algérie, de ce qu'on appelle les plaies toujours ouvertes de la mémoire. Vous n'allez pas y échapper. Ça va?
Bien sûr. Oui,
non, mais en l'occurrence, c'est intéressant et je vous posais la question en souriant parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui revient très fréquemment. Mais dans l'actualité récemment, on a vu le président français Emmanuel Macron, d'un côté, reconnaître la responsabilité de la France dans la mort de Maurice Audouin, le recours à la torture pendant la guerre d'Algérie. Et quelques jours plus tard, il a promu d'anciens combattants harkis dans l'ordre de la Légion d'honneur. Et bon, il a fait ces deux gestes-là. On peut équilibrer cette histoire ou est-ce que cette névrose, finalement, elle est destinée à ne jamais se résoudre ?
Écoutez, c'est très difficile pour moi de trancher dans la question parce que ma position est quasiment radicale. Alors, pour moi, je pars d'un principe très simple. L'Occident n'est ni juste ni injuste. Je n'ai rien à attendre de l'autre côté. Je n'ai pas besoin des excuses. Ce dont j'ai besoin, c'est de ma propre responsabilité. Il y a eu colonisation. Il y a eu des gens qui se sont sacrifiés et qui sont morts pour que moi, je sois libre. Donc, il faut que je sois libre. C'est la moindre des choses. Ils ont payé très cher cette liberté. Je dois en jouir. D'un autre côté, il est important... C'est ce que je dis dans une tribune qui va paraître dans le New York Times. Il est important qu'on solde ces comptes-là. Pourquoi ? Parce qu'il est important de couper l'herbe sous les pieds de ceux-là qui ont fait du traumatisme colonial une rente de recrutement, et qui ont utilisé cette rente pour accentuer les communautarismes et pour tirer vers eux une sorte de légitimité. Il est important de parler de ça, mais une fois pour toutes, et qu'on en finisse quand même.
Oui, ouais, mais enfin, c'est, qu'on vous fiche la paix.
Simplement.
Raphaël Wichmann, rapidement, puis Natacha Polony, l'émission touche à son terme.
Vous dites que c'est important, mais c'est important surtout pour nous en tant que citoyens français. C'est même essentiel. C'est-à-dire que on a en France quand même, on a un pays d'histoire et on a en France une tendance à mettre, alors on n'est pas l'Algérie, on n'a pas une histoire officielle, mais à mettre des décennies avant de parler calmement des errances de l'histoire française. Et donc là, c'est un geste qui, à mon avis, était très important, qu'il était important de faire et qui a soldé en partie des comptes.
Natacha,
vous parliez de la Méditerranée tout à l'heure, Kamel Daoud. Est-ce que notre problème ne vient pas aussi du fait que nous avons abandonné l'idée de penser la Méditerranée ? Nous pensons d'un côté en termes d'Europe, mais Europe tournée vers le nord et vers l'est. Nous avons un monde que nous disons arabe et la Méditerranée a totalement disparu.
Ben, elle a totalement disparu. La Méditerranée, ce n'est pas une nationalité, malheureusement. C'est une culture, à restaurer. Et donc, de part et d'autre aussi, il faut qu'elle redevienne ce qu'elle est. C'est un lieu du corps aussi. Pour revenir à l'histoire des excuses ou du fait d'assumer le passé, je pense que ça sera bien pour vous, Français. Ouais. Ici, c'est très utile. Mais pour moi, la question est autre. À quoi cela m'est utile ? Enfin, à quoi cela va me servir ? Que ferons-nous quand l'histoire prendra fin avec des excuses ?
Oui. Mais,
c'est quand même la bonne question.
Je veux dire, enfin,
oui,
enfin.
Mais attention, non, j'ai vu des réactions en Algérie après l'annonce du président Macron où beaucoup de gens ont salué le courage et j'en fais partie, mais d'autres gens étaient inquiets. Si la bataille d'Alger est finie, qu'est-ce qu'on va faire ?
Parce qu'elle n'est pas terminée. Comme chaque semaine, on termine l'émission avec un conseil de lecture, comme on est aux rencontres de l'histoire, un livre d'histoire ou un livre sur l'histoire. On a très peu de temps. Natacha, un
en
livre.
En quelques secondes, quand on me parle d'un livre sur l'histoire, je pense à l'histoire de la Rome antique de Lucien Gerfagnon, qui est sans doute le livre le plus extraordinairement pédagogique pour nous raconter ce qu'a fait de nous l'Empire romain. Enfin, ça part d'abord de la royauté, de la fondation de Rome, et ça va jusqu'au dernier empereur. C'est écrit, Lucien Gerfagnon disait, il n'est pas bien d'emmerder un lecteur qui ne vous a rien fait, donc c'est drôle, c'est écrit comme un roman, de la part d'un homme qui avait une érudition qu'on ne produit plus aujourd'hui et qui était une splendeur de drôlerie.
Vous voyez, vous êtes nostalgique.
J'aimais profondément
Raphaël.
Cet homme-là.
Moi, je suis encore plus nostalgique, parce que je vais revenir à l'âge d'or, qui est l'âge de Machiavel, et c'est le discours sur la première décade de Tite-Live, qui, à mon avis... Donc c'est aussi sur l'histoire de Rome, mais c'est à mon avis le livre le plus important qui montre à quel point l'histoire peut parler du présent, parce qu'il se pose, Machiavel, les questions exactes qui doivent guider notre réflexion sur notre époque. C'est un livre qui est écrit en exil. Il est exilé parce qu'il a perdu la guerre qu'il entendait mener au nom de la République contre l'argent des Médicis. Et il est dans son cabinet et il parle aux Romains pour leur demander ce qui a fait leur force et qui fait la faiblesse de sa Florence capitaliste.
Et il parle aussi aux contemporains. Il vous parle à vous, Raphaël.
Il me parle complètement. Il est le fil rouge.
Est-ce qu'il vous conseille de créer ce parti, le Rassemblement de la Gauche, dont je parlais tout à l'heure, le RG ?
Il m'a conseillé de pas suivre les conseils d'Ali Badou, en tout cas, sur la dénomination d'un parti politique.
Ça, vous faites bien. Certain. Kamel Daoud, conseil de lecture ?
Le livre que je suis en train de lire depuis pratiquement un mois, c'est un livre de Jean-François Solnan. J'espère que je ne l'égratigne pas le nom. C'est « L'Empire ottoman et l'Europe ». Et c'est quelque chose de fascinant pour moi, parce que ça me permet de déchiffrer un petit peu les actualités, mais surtout de revenir sur l'image que l'on se fait d'autrui, l'autre à travers soi. L'Europe, comment l'imaginait le Grand Turc, oui, jusqu'à maintenant, et vice-versa, comment cet empire voyait les autres. Je suis quelqu'un de fasciné par l'altérité, comment elle se décompose et comment elle se recompose. Comment au début elle est sexuée et vers la fin elle finit dans un débat d'idées de légitimité. Donc l'Europe et l'Empire ottoman, c'est quelque chose d'intéressant aussi.
C'est passionnant et donc toutes ces références seront évidemment sur le site de l'émission. Merci à tous les trois, c'est frustrant mais l'émission se termine ici à Blois. Merci à vous de nous avoir accompagnés pendant cette heure passée en votre chaleureuse compagnie. Merci Kamel Daoud, le peintre dévorant la femme, c'est magnifique et c'est publié chez Stock. Et je pense que Natacha et Raphaël seront d'accord avec moi pour dire qu'il faut le lire.
C'est génial.
Absolument, voilà. Natacha, Raphaël, je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci aux équipes de France Inter, Mathilde Clatt à la réalisation, Benjamin Riquet à la technique, Fabien Gosset, toutes les équipes, Marcos Darras, Alexandre James, Jean-François Georges et Franck Malabry. Et moi, je vous dis à demain midi pour questions politiques, le matin, comme le disait Raphaël Glucksmann tout à l'heure. À suivre sur France Inter, les secrets d'info avec Jacques Monin. On retourne à la maison de la radio.